Donc, l'UNESCO et le Conseil international des musées ont affiché leurs préoccupations sur la situation des musées en raison du Covid-19. Donc, peut-être pour commencer, combien de musées ont été fermés par suite du Covid et quelles sont ses conséquences sur le plan, bien sûr, financier et fonctionnel aussi?
Donc, d'abord, c'est important de comprendre que d'un côté, UNESCO a fait une enquête avec ses États membres et d'un autre côté, ICOM avait fait sur d'autres sujets directement avec ses commissions nationales. Il y a des commissions nationales ICOM dans presque tous les pays du monde, il y en a 195. Et donc, on a fait en parallèle ce travail et nous nous sommes réunis pour voir et partager l'information que nous avions pour le lancer ensemble. C'était plus stratégique aussi de montrer qu'effectivement, les institutions qui travaillent sur les musées ont aujourd'hui un intérêt particulier de voir quelle est la situation pendant cette crise, donc la différence qu'il y avait avant, aujourd'hui, et surtout voir de quelle manière, comme institution, nous pouvons être aussi au service, autant de nos États membres que des institutions, pour voir quelles sont les pistes pour pouvoir sortir de cette crise. Comme vous l'avez dit, effectivement, la crise, elle est profonde. Les chiffres que nous avons actuellement, c'est que nous avons en ce moment plus de 93% de tous les musées au monde qui sont fermés. Dans certaines régions, comme c'est l'Europe, vous aviez plus de 98% et vous aviez, par exemple, l'Amérique latine où 99,7% de tous les musées sont complètement fermés. Ces enquêtes nous ont aidés aussi, et ça va être dans le rapport qui va sortir la semaine prochaine, des datas qui étaient importantes pour nous. La dernière grande enquête qui avait été faite sur les musées a été faite en 2012, donc ça fait quand même 8 ans. D'abord, vous dire que la première chose importante qui s'est produite et qui est positive, c'est qu'il y a plus de 60% de croissance de musées qui existent aujourd'hui. Donc, il y a un travail qui s'est fait lors des 10 dernières années de construction d'infrastructures et de mise en valeur des différents patrimoines nationaux, locaux. Donc, aujourd'hui, on a recensé 94,500 et quelques musées dans le monde. Et ça, c'est important de comprendre que contrairement à l'idée qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années, où les musées, normalement, c'était des institutions qui pourraient disparaître. Aujourd'hui, on a la comprobation que c'est tout le contraire. Effectivement, les musées, c'est des lieux de rencontre des différentes communautés et ils sont dans le cœur, finalement, des politiques publiques des différents gouvernements. Dans le monde, il y a seulement une dizaine de pays qui n'ont pas de musées. 4 africains et certains sites, certaines îles du Pacifique et des Caraïbes. Mais tout le restant des pays qui n'avaient pas de musées aujourd'hui en ont. Soit des musées publics, soit des musées privés. Mais ils ont des infrastructures. Alors, qu'est-ce que nous donnent ces enquêtes? C'est qu'effectivement, nous avons une quantité de ces musées, de ces 94 000 et quelques musées, plus de 93% ont été fermés pendant une période qui va de 3 semaines jusqu'à quelques institutions qui sont fermées depuis plus de 3 mois et demi. Donc, quelles sont les conséquences de tout cela? Bon, les conséquences avec le public, c'est clair, vous le voyez, c'est-à-dire les gens n'ont pas d'accès. Cependant, une grande partie des musées, plus de 40% des musées, ont été capables de mettre en réseau, c'est-à-dire sur les plateformes, du matériel qui provient des musées, soit des visites guidées, soit des softwares pour travailler avec les enfants à l'école, soit des images 3D. Donc, il y a beaucoup d'informations. Cependant, vous avez des régions, et là, je vais parler précisément de l'Afrique, où le taux de musées dans ce contexte des 94 000 musées, ça représente moins de 1%. Donc, il y a 840 musées. Et qu'est-ce qui se passe? La plupart de ces musées, même quand on est en Amérique latine, en Asie, Sud-Ouest, n'ont pas eu d'investissement sur le digital. Donc, ces musées sont complètement fermés, et quand on parle fermés, même virtuellement. Donc, ces musées ne remplissent plus un mandat qu'ils ont de communion autour, c'est tous les espaces culturels. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de musées parce que c'est les chiffres que nous avons précises. Et donc, nous voyons qu'effectivement, il y a une distance entre les musées qui ont eu les moyens ou qui ont eu des politiques pour investir dans des plateformes digitales et d'autres qui simplement n'ont pas pu le faire et aujourd'hui se retrouvent sans pouvoir faire un minimum de services. En même temps, ce que nous savons, c'est que la plupart de ces musées, ceux qui n'appartiennent pas à l'État, c'est-à-dire, je dirais quand même, plus de 60% des musées qui n'appartiennent pas globalement à l'État ou qui reçoivent des petites subventions, aujourd'hui ont dû laisser leur personnel s'en aller. Dans certains pays, aujourd'hui, je parle de l'Europe principalement et du Canada, il y a des moyens de subsistance pour ces employés, ces staffs. Dans le restant du monde, ces gens sont dans une précarité de travail terrible, c'est-à-dire ils n'ont aucun accès à la sécurité sociale. Donc, les musées, vous avez des contrats préfet, pour le dire d'une certaine manière, aujourd'hui se retrouve à la rue, sans aucun moyen de subsistance. Donc effectivement, les musées qui concentrent un emploi très grand dans les institutions, parce qu'on ne parle pas seulement des muséographes, on parle de tout le personnel qui travaille autour d'un musée. Aujourd'hui, il y a une partie, et les derniers chiffres qu'on a, c'est à peu près 32-33% de tout le personnel des musées qui, en ce moment, n'a pas de travail. C'est pas qu'ils travaillent chez eux. Le 67% différent, ils travaillent depuis leur maison. Le reste n'ont pas cette possibilité. Et les trois secteurs qui sont le plus touchés dans les musées, c'est tout ce qui est médiation avec la communauté ou avec le public, tout ce qui est les services éducationnels, puisque les écoles ne vont plus au musée, donc ce personnel ne peut pas être, et tout ce qui est services, caisses, boutiques, restaurants, donc tout ce qui est autour d'un musée. Donc, nous avons participé, parce que nous avons créé un mouvement avec l'UNESCO qui s'appelle Resiliart, c'est des rencontres, des dialogues de la société civile et des créateurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions qui se sont approchées pour faire. J'en ai fait un pour l'Amérique latine, un autre hier pour l'Afrique, et on se rend compte qu'il y a un grand problème, c'est qu'il y a certains services aujourd'hui qui sûrement ne vont plus exister dans le futur, pour la plupart des musées. Vous pouvez entendre le Prado, le Smithsonian, qui sont en train de dire que les services de billetterie vont disparaître dans les musées. Donc, tout va se faire via e-commerce. Donc, on a un problème parce qu'effectivement, les pays qui ont accès à l'Internet, qui ont accès au réseau, vont pouvoir s'adapter assez facilement à certains changements. D'autres pays, malheureusement, dans des régions du monde qui étaient déjà en arrière vis-à-vis, qui étaient en train de construire le premier musée, se retrouvent dans une situation où l'adaptabilité ne peut pas se faire. Donc, il y a un appel qui se fait parmi les membres des différents musées, que les grands musées qui ont un support soit de l'État, soit de sponsors privés, comme c'est le cas aux États-Unis, puissent commencer à travailler avec une solidarité plus accrue avec d'autres musées au niveau communautaire local qui aujourd'hui ont besoin du partage de ces connaissances ou des bonnes pratiques ou même de technologies qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, nous allons voir un changement pas graduel, très immédiat vis-à-vis de comment les musées vont être confrontés au post-Covid. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez, en Europe, il va y avoir la discussion. Là, je vais vous donner un exemple. La Suède, c'est le seul pays qui a continué à avoir certains musées ouverts pendant cette période, mais avec des restrictions très grandes. Leur public est descendu de 70%, même s'ils étaient semi-ouverts. Pourquoi ? Parce que les gens, bien sûr, ont des pratiques différentes d'aller dans un espace public, même quand il y a moins de restrictions que dans d'autres pays où, effectivement, les musées sont encore fermés pour des raisons sanitaires. Donc voilà, cette adaptabilité, c'est celle qui, en répondant à l'enquête de l'ICOM, vous retrouvez avec un chiffre qui pour nous est alarmant, c'est-à-dire que vous avez en ce moment 13% de tous les responsables de musées qui vous disent « nous croyons qu'on est incapable de rouvrir ». Non pas parce qu'on ne va pas avoir d'audience, parce qu'on n'a pas les moyens de rouvrir nos portes. Et cela, effectivement, on va prendre un retard de 20, de 30 ans par rapport à ce qui venait, ce qui est en train de se construire vis-à-vis des institutions culturelles comme les musées.
Mais justement, la fermeture de ces musées accentue les inégalités, n'est-ce pas ?
Les inégalités et aussi met en question certains éléments qui sont importants sur la diversité des musées. C'est-à-dire, nous allons voir certains types de musées qui ont plus de possibilités de surpasser cette crise. D'autres musées, par exemple, je vais être très direct, des musées qui travaillent sur des choses identitaires, qui ne vont avoir aucune possibilité de survie s'ils n'ont pas les moyens financiers de supporter ces institutions. On parle de petits musées. Nous, à l'UNESCO, bon, je voyageais beaucoup et donc j'ai pu être confronté à des musées extraordinaires, par exemple au Brésil, sur l'esclavage, sur la route de l'esclave, ou en Ouzbékistan, au Tadjikistan. Et ces musées qui étaient en train de construire, non pas leur patrimoine, qu'ils l'ont toujours eu, mais une adaptabilité pour que ces communautés qui ne connaissaient pas l'institution muséale, comme tout, aujourd'hui vont se retrouver dans une situation d'une précarité absolue. Et cela va prendre beaucoup de temps pour récupérer cette crise. Donc, nous découvrons que cette crise n'attaque pas non seulement la santé. Nous savons, bien sûr, le secteur de la culture est très fortement frappé, que ce soit le spectacle vivant ou même le patrimoine immatériel. C'est-à-dire, hier, c'est un exemple, mais hier, j'ai eu aussi un webinaire avec les rois, reines et chefs traditionnels de l'Afrique. C'est une centaine. Et vous retrouvez qu'effectivement, la plupart d'entre eux n'ont pas pu continuer les rituels. Et ça, c'est un problème parce que c'est le contact que les communautés ont. Et finalement, aujourd'hui, ces personnes qui sont le patrimoine vivant de beaucoup de communautés sont celles aussi qui peuvent transmettre tous les messages de barrières qu'il faut mettre pour justement freiner ce qui se passe aujourd'hui dans certaines régions où cela n'a pas été encore si touché, mais pourrait le devenir si on ne met pas justement toutes les précautions qui ont été mises en place dans d'autres pays qui ont été touchés les derniers mois. Donc voilà, c'est une situation qui est très compliquée. Ce qu'on voit cependant, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une sensation de solidarité autour des institutions que je n'avais jamais vue. C'est-à-dire, on a la possibilité aujourd'hui, à cause de cette pandémie, qu'il y a une préoccupation sur l'ensemble de ce que les musées signifient. Vous savez toujours qu'il y a la course au financement. Là, le problème, c'est que le financement ou le manque de financement ou le manque de financement par d'autres moyens les touche tous, que ce soit public, qu'il soit régional, qu'il soit local, ils sont tous touchés ou qu'ils soient privés. Donc aujourd'hui, effectivement, tout le monde commence à partager des bonnes pratiques pour cette période, mais surtout se réunissent pour pouvoir réfléchir à comment, avec toutes ces informations aujourd'hui, on va pouvoir proposer des nouvelles façons de réinventer les musées. Les grands spécialistes vous diront que les musées se sont toujours réinventés. Ça fait 500 ans qu'on se réinvente. Donc, ils sont plus optimistes dans le sens où il va y avoir la capacité pour faire cette construction d'un musée nouveau qui va naître. On ne sait pas encore les délimitations.
Comment voyez-vous justement l'après-Covid pour les musées? Parce que les musées, tout de même, c'est aussi un apport financier. C'est un peu comme le tourisme dans les pays. Donc, comment on va arriver justement à rouvrir ces musées et à que l'économie recommence en un sens?
Vous avez fait l'exemple parfait, c'est-à-dire le tourisme. Aujourd'hui, nous avons parmi les 1200 sites du patrimoine mondial, ça a descendu un peu, mais on est arrivé à un moment donné à 95% de tous les sites fermés. Aujourd'hui, on en est à 87 parce qu'il y en a beaucoup qui ont rouvert, surtout en Asie, en Chine principalement, et quelques-uns qui s'ouvrent dans le nord de l'Europe. Et ce que nous voyons, c'est que la réouverture n'a rien à voir ni avec la quantité de visites, ni la façon comme elle est tournée. C'est-à-dire quand vous avez des sites et autour des sites, une grande partie de l'activité, ce n'est pas seulement la visite au lieu, au site, mais c'est la restauration, c'est l'hôtellerie. Et tout ça, c'est fermé en ce moment, ou partiellement fermé. Donc, il y a une partie de cette visite qui n'existe plus en ce moment. Et donc, les gens se disent, non, je ne vais pas parcourir 300. Bon, dans certains pays, on ne peut même pas faire 100 km. Donc, on ne peut pas aller à ce site si je n'ai pas l'expérience de la visite complète, avec tous les services additionnels. Pour les musées, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est très difficile et c'est pour ça qu'on est très attention à dire que finalement, on va travailler sur des pistes parce qu'on ne peut pas donner de solutions pour des choses où effectivement, chaque musée doit trouver un moyen différent. Cependant, il y a des choses qu'on sait déjà. On sait, par exemple, que les rites d'exposition temporaire vont diminuer d'une manière incroyable par le même effet. Nous savons que certains musées n'ont pas le choix de pouvoir réorienter leurs visiteurs. Leur tourisme, c'est comme le tourisme. Pourquoi ? Parce que, par exemple, tous les musées qui sont sur des îles n'ont aucune possibilité de réorienter, puisque normalement, leur population nationale connaît déjà les musées, ou alors n'ont pas d'intérêt. Donc, ça ne peut pas augmenter exponentiellement. Donc, c'est des musées qui étaient concentrés sur l'apport du tourisme international. Et aujourd'hui, ça va prendre beaucoup de temps pour revenir à ce tourisme. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de solution miracle qu'on puisse adapter. Cependant, nous savons que ça va dépendre beaucoup aussi des structures des musées et des relations qu'ils ont vis-à-vis des financements. Vous avez des chiffres qui sont alarmants aujourd'hui. Il y a des chiffres en Europe qui sont sortis, mais par exemple, je vous donne un exemple. Le Prado, qui est quand même le musée, un des musées les plus visités au monde, a perdu en 2 mois et demi 72% de ses revenus. C'est-à-dire 72% de ses revenus étaient sur la base, non pas de privé, mais de public, payant. Et c'est un musée public. Donc, vous comprenez qu'ils nous disent on a un problème de caisse. C'est-à-dire, tous les projets que nous avions d'ici 3-4 ans, on doit les revoir, puisqu'on ne sait pas si on a les moyens d'amener les expos qu'on avait prévus. Donc, cela va permettre, et là, il y a un changement qui peut devenir positif pour les musées, il faudra voir si ça va donner résultat vis-à-vis des publics, c'est que vous savez très bien que les musées, généralement, exposent une partie infime de leur collection. Ça va peut-être permettre qu'une grande partie de la collection des musées qui sont en dépôt vont pouvoir voir la lumière, puisque tout va prendre. Là, je vous dis des choses positives qui peuvent arriver. Peut-être pas pour le visiteur qui vient de loin. Ça va l'être aussi, puisque c'est des œuvres qu'ils ne connaissent pas. Mais ce n'est pas les œuvres emblématiques qu'ils viendraient voir pour l'expo X qui allait se faire dans 3 ou 4 mois. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a certains services qui, comme je vous le disais, vont disparaître des musées. Ils vont être complètement identifiés avec, par exemple, le paiement par Internet ou par téléphone. Mais cela va changer complètement puisque nous savons très bien que les deux personnes qui sont fondamentales dans un musée, puisque c'est les premiers visages que les visiteurs voient, c'est la caissière, et l'agent de sécurité, c'est les deux. Et aujourd'hui, ces deux-là, si vous voyez les photos des premiers musées qui ont ouvert, ils sont transformés en Robocop. Donc, c'est une manière différente. C'est difficile quand on fait un travail d'amener, par exemple, des écoles pour pouvoir découvrir leur premier musée. Je vous promets que c'est différent, un visage qui vous sourit, avoir quelqu'un qui vous dit tous les deux minutes de respecter le mètre et demi, de ne pas s'approcher. C'est une expérience qui ne peut pas être la même expérience. Et finalement, un autre sujet qui devient important, c'est les grandes plateformes. Pendant le confinement, vous avez eu une partie énorme des collections qui a été mise en ligne, ou des espaces physiques. Vous savez très bien qu'une fois que vous mettez des choses en ligne, elles rentrent dans un domaine public d'accès. Donc, le grand problème, c'est comment vous faites pour que les musées, qui finalement aujourd'hui ont compris que les plateformes peuvent devenir des instruments, comme ça va l'être pour d'autres expressions culturelles, que ce soit des concerts. Dans le futur, vous allez avoir des concerts live et vous allez avoir des concerts payants par Internet. Ça va arriver. Il n'y a personne qui peut me dire que non, parce que ça va arriver. Et ça ne va pas être dans les cinémas, parce qu'on ne va pas pouvoir aller voir un concert de musique classique dans un cinéma ou une opéra, parce que l'expérience va être complètement détournée. Donc aujourd'hui, les abonnés vont payer. C'est la même chose dans les musées. Vous allez avoir des abonnements pour voir des expositions virtuelles. Donc, ça peut élargir une audience très forte. Cependant, toutes les personnes qui travaillent dans un musée vous diront, on ne peut pas remplacer l'expérience présentielle de visiter un musée par une visite virtuelle. C'est deux choses différentes. Il faut faire les deux. On va devoir faire les deux. Cependant, aujourd'hui, ce qu'on essaye de trouver, c'est comment cette expérience présentielle peut devenir, et ça c'est important de le savoir, aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une visite qui soit plus soutenable, c'est-à-dire si je vais à un musée, je veux pouvoir apprécier une œuvre d'art ou une collection anthropologique et ne pas attendre que 15 personnes le voient avant moi. Donc, les musées vont être régulés d'une manière différente. C'est-à-dire, aujourd'hui, on avait certains musées qui étaient remplis, d'autres musées qui étaient un peu plus faibles au niveau des audiences. On va devoir construire quelque chose en commun pour pouvoir répartir ces audiences. Donc, je ne vous dirai pas que c'est que des choses négatives, il va devoir. Cependant, cette adaptabilité, c'est le difficile. Comment on fait pour que l'adaptabilité arrive aux 94 000 musées dans le monde. C'est ça qui est important. Et ne pas seulement nous concentrer, comme dans le passé, sur certains musées qui sont emblématiques et qui aujourd'hui ont plus de ressources, puisqu'ils sont dans l'imaginaire collectif et qui vont recevoir certaines subventions dans les pays qui ont les moyens et dans les autres pays qui n'ont pas de moyens, bah, on les laissera. C'est comme nous travaillons sur plusieurs projets. Un exemple, il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, il y a le musée de Rio de Janeiro, musée qui a brûlé. Nous, on travaille sur ce projet depuis plus de 2 ans. Et effectivement, c'est un incendie. Donc, le projet aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? C'est un projet où on avait trouvé les financements avec des privés. Et aujourd'hui, les privés vous disent, oh, mais maintenant, on doit concentrer notre effort sur tous les musées et non plus sur un musée. Le problème, c'est que ce musée a perdu 80% de sa collection et 100% de son bâtiment. Donc, si vous n'avez pas un musée phare historique, c'est difficile que vous pouvez trouver cette solution au niveau des musées qui sont plus locaux.
Vous parliez justement de l'accès au musée virtuellement, mais pour certaines populations, ils n'ont pas d'ordinateur. Donc, comment on arrive justement, parce que ça fait partie énormément de l'éducation des enfants, des jeunes, de la population. Donc, comment on va arriver justement à réguler tout ça et arriver à ce que les musées puissent être accessibles à tout le monde?
C'est une bonne question parce que cette question, elle nous a été posée et vous savez que l'UNESCO a une priorité qui est l'Afrique. Donc, pour être très, très, très direct, aujourd'hui, par exemple, quand on parlait de l'éducation à distance, quand vous voyez la région de l'Afrique touchée, la plus touchée, effectivement, l'accès s'est fait par d'autres moyens puisqu'il n'y a pas de réseau. Elle s'est fait par la radio communautaire. Parfait, ça, vous pouvez le faire. Essayez de faire une visite virtuelle par radio d'un musée. C'est un peu plus compliqué. Ouais, je ne dis pas que c'est impossible.
Ça peut se faire, mais c'est un peu difficile.
Je ne dis pas que ça... À mon avis, ça s'est déjà fait. Ouais. Mais l'expérience n'est pas la même. Je sais qu'il y a beaucoup de musées qui ont adapté des visites pour justement certains handicaps ou certaines parties de la population. Effectivement, pour les non-voyants, il y a des formes de visites. Mais elle est présentielle parce qu'elle se fait par le tact. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire. Donc, reposons-nous de quelle manière sommes-nous capables. Et donc, ce qu'on soutient, c'est que la seule façon qu'on puisse travailler avec toutes nos régions, avec tous les États membres et finalement arriver à tous les musées, c'est une sorte de solidarité, de partage de connaissances vis-à-vis de comment chaque institution est en train de mettre en œuvre cette sortie d'une crise qui n'était pas target direct vers l'institution culturelle et qui aujourd'hui devient une de ses victimes. Et c'est ça le mot, c'est une victime. Aujourd'hui, les institutions culturelles sont victimes de la même manière qu'on l'ont été les personnes naturelles ou que les professionnels des différentes professions qui aujourd'hui doivent être confrontés à un contact direct avec cette pandémie. Donc, on n'a pas de solution miracle, je vous l'ai dit. En ce moment, on réfléchit, mais je vois qu'il y a une quantité de professionnels aujourd'hui qui s'engagent à pouvoir se concerter pour aller de l'avant et poser toutes ces questions, parce qu'on ne va pas découvrir aujourd'hui l'inégalité d'accès des espaces culturels dans le monde. On l'a toujours su. Et que finalement, la connectivité, effectivement, quand elle est très, très réduite ou très restreinte dans certaines parties du monde, affecte effectivement l'accès plus large, même si ce n'est pas physiquement, à ce patrimoine, à ces connaissances, à cette identité, à cette mémoire. Donc aujourd'hui, on doit commencer à travailler sur des nouvelles bases où effectivement ce partage, et on est en train de le voir, il y a des partages entre des petites villes en Norvège avec le Sénégal. Et ça, on les met en contact pour voir comment le petit village qui a 12 000 habitants et qui a été fermé pendant 3 mois, aujourd'hui, a trouvé une nouvelle façon d'approcher le musée par le prêt d'œuvres dans les maisons. Donc, c'est chacun se partage et il y a tout un protocole. C'est quelque chose qui pourrait se faire facilement en Afrique aussi, parce qu'on parle d'une façon de solidarité communautaire, de partage de ce patrimoine, avec des conséquences, bien sûr, parce qu'il faut avoir les conditions pour pouvoir recevoir, dans ce cas, c'est des œuvres d'art, ce n'est pas des objets anthropologiques. Mais donc, ce que nous allons faire, c'est une continuité à EQICOM, de voir de quelle manière nous sommes capables de donner toutes ces pistes sous ce partage. En ce moment, nous sommes en train de récopiler toutes ces bonnes pratiques pour pouvoir le donner, pour le partager avec nos États membres, avec les institutions muséales du monde entier. Et nous espérons que cela va produire un effet modernisateur aussi pour beaucoup de procès dans les musées qui, malheureusement, sont arrivés d'une manière très brutale. Et c'est ça, c'est important. Nous croyons que pour les institutions culturelles, pour toutes en général, normalement, les changements se font progressivement. D'audience, même avec les staffs, doivent se construire. Là, ils ont été confrontés, c'est comme les professeurs, malheureusement, ils ont été confrontés d'un jour au lendemain à pouvoir s'adapter à quelque chose qui était 100% nouveau. Et donc, voilà, l'UNESCO et l'ICOM vont être près de ces États membres en les informant de cette enquête, des rapports que nous sommes en train de faire et bien sûr du partage d'informations pour après s'asseoir avec nos États membres et voir quelles recommandations, parce que les dernières recommandations des musées étaient de 2015, nous allons être capables de donner pour le post-Covid.
Ernesto Otón, merci beaucoup pour cette interview.
Portez-vous bien.
Merci, vous aussi. Au revoir.